It's more than a honeymoon, more than a good credit score on a summer cruise, yeah. So much more than the tambourine that sprinkle the melodies we love to hear the choir sing. And it's more than ego men and me. Love is more than a wedding, more than a wedding. So much more love is more than a wedding day.
actif.
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
RFI, Radio France Internationale, 4h en temps universel, 6h ici à Paris. Un nouveau journal présenté par Gaëtan Plenet. Gaëtan, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Trois cessez-le-feu à la une de votre édition.
D'abord celui au Liban, qui va d'ailleurs demander sa prolongation tout à l'heure lors de nouveaux pourparlers avec Israël. Celui en Iran, aussi bel et bien prolongé, lui, par les États-Unis, même s'il n'a pas de nouvelles négociations au programme pour l'instant. Et puis le cessez-le-feu, ça fait 6 mois qu'il est en vigueur à Gaza, mais de nombreux habitants ne voient pas franchement la différence. Leur quotidien est toujours aussi difficile. Et les bombardements, d'ailleurs, n'ont pas complètement disparu. Témoignage de Gazaoui dans ce journal. On va parler aussi de ce prêt de l'Union européenne à l'Ukraine qui se concrétise après des mois de blocage, de la purge qui continue en Russie dans l'entourage de l'ex-ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. On sera aussi au Gabon pour voir comment les étudiants réagissent alors que leurs frais d'inscription, comme ceux de tous les autres non-ressortissants de l'UE d'ailleurs, vont augmenter drastiquement dans les universités françaises. Et puis en Suède, la vice-première ministre part à la chasse, non pas des rennes, mais de la place de leur élevage dans le pays. Le peuple sami est révolté. On prend les mêmes et on recommence. Ce jeudi à Washington, d'un côté de la table, l'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter. De l'autre, l'ambassadrice libanaise, Nada Ahmadeh Mohawad. Comme il y a 10 jours, ils se retrouvent dans la capitale américaine pour une nouvelle session de pourparlers. L'objectif, c'est toujours de trouver une issue à la guerre qui a repris de plus belle au Liban le 2 mars dernier, après des tirs du Hezbollah vers le sol israélien, en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. L'État hébreu a très largement répliqué. Près de 2500 morts plus tard, un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi, mais il est très fragile. Le Liban compte quand même demander sa prolongation pendant 1 mois lors de cette réunion sous l'égide des États-Unis, mais sans le Hezbollah. Des pourparlers alors que l'armée israélienne occupe toujours une bande de 10 km dans le sud libanais. Des destructions de villages sont rapportées dans cette zone où les habitants sont très nombreux à fuir et où le travail des organisations humanitaires est particulièrement difficile. Nicolas Falaise.
Amel signifie espoir en arabe. L'ONG humanitaire libanaise dispose de 5 centres de soins dans le sud du pays, mais l'un d'entre eux, celui de Riyam, reste fermé. Il se trouve dans la zone occupée par Israël. Sahar Choker est responsable terrain pour l'ONG.
On a fermé le centre de Riyam dès le premier jour de mars, parce que la situation, ils ont commencé par Riyam. Toutes les entrées de Riyam maintenant sont fermées. Il y a des problèmes d'accès à Riyam.
En visite à Paris cette semaine, le premier ministre libanais Nawaf Salam a estimé à 500 millions d'euros les besoins humanitaires du Liban pour les 6 prochains mois. Sahar Choker, elle, pense déjà à la reconstruction qui coûtera bien davantage.
Parce que le problème n'est pas le besoin seulement de santé. Il y a beaucoup de maisons sont détruites. On a besoin de beaucoup d'argent, de donations pour reconstruire tout ça à Liban. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, leur magasin. La situation au sud du Liban est catastrophe.
En attendant, l'organisation humanitaire fonctionne au jour le jour avec des Libanais du Sud qui viennent en aide à d'autres Libanais du Sud.
Les personnes qui se trouvent là-bas, ce sont notre parents, ce sont notre famille et ils font la décision de rester. Et comme on a l'esprit de résilience, on va rester avec eux dans cette situation.
Sahar Choker elle-même a été déplacée par la guerre. Elle vient de retourner vivre dans son village avec ses 3 enfants.
Et Nicolas Falaise, alors un cessez-le-feu, on le disait, est entré en vigueur depuis vendredi, mais les deux camps s'accusent mutuellement de le violer. L'agence de presse libanaise ANI a notamment fait état de plusieurs personnes tuées hier lors d'opérations israéliennes. Parmi elles, la journaliste libanaise Amal Ralil. Elle aurait péri lors d'une frappe aérienne dans le sud du pays. Le ciblage des journalistes est un crime grave et une violation flagrante du droit international humanitaire, dénonce le ministre libanais de l'information. Pour ce qui est de la guerre en Iran, un cessez-le-feu est toujours en cours, prolongé par le président américain Donald Trump, qui dit vouloir laisser davantage de temps aux Iraniens pour faire des propositions de paix. Il n'a pas fixé de date limite pour recevoir une telle proposition, précise la Maison-Blanche. L'Iran, de son côté, continue de rejeter toute nouvelle discussion tant que les États-Unis continueront de bloquer les ports iraniens. Les autorités iraniennes, elles, poursuivent leur paralysie du détroit d'Ormuz. Avec cet incident, hier, les gardiens de la révolution ont annoncé avoir saisi deux navires qui tentaient de franchir ce détroit. Les redirigeants, c'est ce qu'on nous dit, vers la côte iranienne. Ce n'étaient ni des navires américains, ni des navires israéliens, minimisent les autorités américaines qui affirment ne pas y voir une violation du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, il y en a un aussi à Gaza depuis le 10 octobre dernier. Trouvé après deux années de guerre sanglante, les frappes israéliennes ont détruit une grande partie de l'enclave palestinienne et continuent à le faire d'ailleurs, selon de nombreux habitants qui dénoncent des centaines de violations de la trêve par les Israéliens. Parole de Gazaoui ce matin avec vous, Alice Froussard.
Ce que les Gazaouis racontent en premier au téléphone, ce sont les bombardements qui n'ont pas cessé, le prix exorbitant des denrées alimentaires, l'eau potable qui manque. Salma Attawil, dans la ville de Gaza, nous parle de l'odeur nauséabonde.
There is a growing amount of waste in the streets.
Il y a aussi une quantité croissante de déchets dans les rues, ce qui augmente les risques de maladies. Sur un plan très personnel, il m'arrive parfois de me réveiller la nuit au bruit des rongeurs qui fouillent sous les décombres de l'immeuble juste à côté du mien. C'est vraiment effrayant et j'ai toujours peur qu'ils finissent par trouver un moyen d'entrer dans mon appartement.
Se déplacer est devenu presque impossible, soupire Salma. Les restes des bâtiments pulvérisés sont toujours au sol.
Et malgré le soi-disant cessez-le-feu, nous vivons toujours dans l'incertitude. Nous sommes coincés dans une zone grise et ne savons pas ce qui va suivre.
L'escalade régionale au Moyen-Orient a dévié l'attention internationale, explique Anne-Claire Yaïch, directrice de Handicap International pour la Palestine. Gaza a été invisibilisée alors que la violence y est continue, répétée.
On est sur une situation qui est catastrophique et qui continue d'empirer, où toutes les opérations humanitaires qui pourraient répondre aux besoins les plus essentiels et les plus vitaux sont empêchés.
Derrière, il y a aussi la question du respect du droit international, à savoir la nécessité pour Israël de faciliter les opérations des humanitaires.
Un sujet signé Alice Froussard. Un sommet de l'Union européenne prévu ce soir à Chypre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait y participer, lui qui se réjouit du déblocage d'un prêt de l'UE de 90 milliards d'euros. Alors ce n'est pas encore complètement fait, mais c'est en très bonne voie. Après des mois de blocage, les 27 ambassadeurs représentants permanents de l'UE ont finalement donné leur feu vert hier et la validation officielle est attendue dans la journée. En attendant, les frappes russes se poursuivent en Ukraine. L'une d'elles a fait au moins deux morts cette nuit à Dnipro, dans le centre du pays. Une personne est aussi portée disparue. Un immeuble d'habitation, un magasin et une voiture auraient été touchés. Pendant ce temps, en Russie, on en sait un petit peu plus sur l'arrestation, il y a 10 jours maintenant, de Vitali Melimouk, un ancien vice-ministre qui était aussi directeur adjoint du parc Patriot, un vaste parc dépendant du ministère de la Défense et situé à quelques kilomètres de Moscou. Il est accusé de corruption. Alors, au-delà de son cas personnel, le ministère de la Défense et les organisations associées continuent d'être écartés, voire inquiétés par la justice. Et l'entourage de Sergueï Choïgou, à la tête de ce ministère jusqu'en mai 2024, semble de plus en plus directement dans le viseur. Correspondance à Moscou d'Anissa El-Jabri.
Encore la corruption invoquée comme motif de placement en détention pour un cadre de la défense russe, désormais ex-vice-directeur du parc Patriot, Vitali Melimouk est accusé, selon le journal commerçant de ce mercredi, d'avoir touché un pot de vin de 18 millions de roubles, un peu plus de 200 000 euros au cours actuel. Alors certes, la direction de cette installation du ministère de la Défense était déjà sous enquête approfondie, mais ce qui retient l'attention, c'est la mise au pas globale du ministère de la Défense et surtout du clan des très proches de Shoigu, à chaque fois pour motif de corruption. Trois vice-ministres notamment, dont Timour Ivanov, arrêté en 2024, condamné à 13 ans pour détournement de fonds. Pavel Popov, 69 ans, condamné il y a moins de deux semaines à 19 ans dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité. Motif corruption, fraude, détention illégale d'armes, faux et usage de faux, abus de pouvoir. Seuls quatre vice-ministres de la Défense de l'époque de Shoigu sont toujours en poste, dont Younous Bek Yevkourov, arrivé en 2019. Il est un des hommes clés de la stratégie russe sur le continent africain. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Deux sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce que souhaite l'ex-président sénégalais Macky Sall. Il souhaite surtout devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. Son audition avait lieu hier devant les 193 États membres. Ça a duré 3 heures pendant lesquelles il a plaidé pour un renforcement d'une diplomatie préventive et une rationalisation aussi des structures de l'organisation. Alors parmi les trois autres candidats, l'ex-vice-présidente du Costa Rica, Rebecca Greenspan, elle aussi auditionnée hier. Pour elle, la confiance envers l'ONU décline. Si je suis élue, j'agirai avant que les conflits ne se déclenchent, a-t-elle notamment déclaré. déclaré l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cédera sa place le 1er janvier prochain. RFI, il est 6h09 à Paris et on reparle à nouveau ce matin de cette volonté du gouvernement français de faire appliquer strictement dans ses universités les droits d'inscription différenciés pour les étudiants non ressortissants de l'Union européenne. Alors, dans les faits, c'est censé être le cas depuis plusieurs années déjà, mais en réalité, ces tarifs différenciés, plus élevés donc pour les étrangers que pour les Français, ne sont que rarement appliqués. S'ils l'étaient, eh bien, la majorité des étudiants extra-communautaires seraient donc appelés à s'acquitter de droits d'inscription fixés à près de 2 900 € par an en licence, contre 178 € actuellement, quasiment 4 000 € en master, contre 254 €. Alors, qu'est-ce qu'on en pense en Afrique ? Exemple au Gabon ce matin, reportage à Libreville d'Yves Laurent Goma.
Étudiante dans un institut de communication, Roberte Adé souhaite poursuivre son master en marketing et communication digitale en France. L'explosion des frais d'inscription touche ses ambitions.
Non, je ne pars plus en France. Je préfère tout mettre en œuvre pour aller dans un autre pays, plus la France.
À la nuit tombée, Inès Makosso quitte à pied le campus de l'université Omar Bongo de Libreville. Pour elle, la décision de la France n'est rien d'autre qu'un refus de recevoir les étudiants africains.
C'est une façon gentille de nous refuser l'accès à leur pays parce que tout simplement, on ne peut pas quitter de 300 à 3000, c'est excessif. Je pense que c'est un frein qu'ils mettent sans vouloir prononcer les mots.
Ancien cadre du secrétariat général de cette université, Anissé Ondjoa, dit respecter la décision française. Il appartient selon lui aux dirigeants africains d'y faire face.
C'est une invite en fait à nos États africains pour dire performez chez vous, formez les enfants sur place, c'est simple.
Il y a 9 mois, l'actuel président gabonais, Brice Clotaire Oligingema, avait déjà prévenu que l'État gabonais ne souhaite plus envoyer ses étudiants en Occident pour des raisons budgétaires. Yves Laurent Goma, Libreville.
La direction la Suède, à présent, là-bas, la vice-première ministre et chef des chrétiens démocrates propose de revoir en profondeur la place de l'élevage de rennes dans le pays. Pour Ebba Busch, il faut à la fois réduire leur nombre et mettre fin à leur statut d'intérêt national. L'idée ne plaît pas, mais alors pas du tout aux Samis, dernier peuple autochtone d'Europe, alors que l'élevage de rennes est justement au cœur de leur mode de vie. Correspondance depuis Stockholm, en Suède, d'Ottilia Ferré.
Le nord de la Suède est un territoire sous pression, au croisement d'intérêts miniers et énergétiques, mais c'est aussi la terre ancestrale des Samis, là où ils élèvent leurs rennes, une activité économique, mais surtout le cœur de leur culture. Une activité qui plus est protégée par la Constitution et le droit international. Et Ebba Busch estime pourtant qu'elle occupe trop de place pour un impact économique limité et que l'État devrait reprendre la responsabilité des terres. Le député écologiste Jan Rizé rappelle lui que la Suède s'est construite sur les terres samis et non l'inverse.
Je pense qu'il y a une véritable dimension colonialiste dans tout cela. Le peuple sami était indéniablement là en premier. Cela signifie que nous avons une certaine responsabilité de favoriser cette culture et cette activité.
Kenny Wilkinson, avocate de la Fédération nationale des Samis de Suède, accuse Ebba Busch de politiser le sujet à 5 mois des élections, avec un discours qu'elle juge erroné et qui laisse croire que les Samis bloquent toute exploitation, ainsi que l'accès aux pêcheurs et aux chasseurs.
C'est très populiste. C'est un peu trumpiste, car elle affirme des choses qu'elle ne maîtrise pas. C'est juste polarisant.
Pour l'avocate, ce genre de discours revient à remettre en question l'état de droit. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Merci d'écouter RFI, il est 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on est à Jérusalem avec notre correspondant Michel Paul. Il va nous parler de l'armée israélienne. Serait-elle en train de devenir l'armée de Dieu ? En tout cas, il y a visiblement un glissement idéologique dans les rangs de l'armée et sur le terrain aussi. Reportage à suivre. L'actrice palestinienne Iyam Abbas est notre invitée culture ce matin. Elle est à l'affiche d'À Voix Basse, le nouveau film de Leïla Bouzid, de la réalisatrice tunisienne qui explore les secrets d'une maison où cohabitent 3 générations de femmes. Et puis on va parler de la rate, de son utilité souvent négligée. Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, ce triste anniversaire qui approche dimanche, le 26 avril, ça fera 40 ans, jour pour jour, qu'une explosion survenait dans le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Des dizaines de milliers de personnes étaient alors évacuées de la région. Les jours qui suivent, un nuage d'air contaminé traverse une partie de l'Europe. C'est tout simplement l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire, avec de très nombreuses conséquences environnementales et humanitaires. Alors, 4 décennies plus tard, rencontre avec des travailleurs de la centrale qui ont vu leur vie basculer forcément ce jour-là. Reportage d'Emmanuel Chaz.
Nous sommes à Troïchina, un quartier résidentiel du nord-est de Kiev. Au milieu des cerisiers en fleurs, des barres d'immeubles identiques d'une vingtaine d'étages se dressent. C'est dans ces bâtiments qu'après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, des liquidateurs et leurs familles ont été évacués. Volodymyr Vassilievitch faisait partie de la police routière qui évacuait des civils à l'époque. Il nous raconte les premiers jours après la catastrophe.
Nous avons embarqué dans le véhicule blindé. La cabine était recouverte de plomb pour bloquer les rayons radioactifs. Nous sommes partis à l'hôpital.
Il y a ce chien pour se taire à mes jambes. Et le soleil, bien un chien pour se taire à mes jambes, bien le soleil. Y en a-t-il un pour me dire qui je suis venu rejoindre?
On fait un putain de boucan. Yeah, venez on réclame. Venez on s'éclate, venez on s'exclame. Yeah, venez on freestyle. Venez on s'installe, venez on touche les étoiles. Le monde est devenu tellement fou, emporté par un mouvement fou. Yeah, venez on réclame. Venez on s'éclate, venez on s'exclame. les étoiles. Viens, on arrête de passer pour des clowns. Viens, on arrête de racailler et de rapper que le ghetto s'écoule. Viens, on rêve en regardant les cieux. Viens, on se serre au moins une fois la main en se regardant dans les yeux. Viens, on ralentit, viens, on freine tous. Viens, on dit à la conseillère d'orientation d'aller se faire foutre. Viens, on arrête de faire les restats. Viens, on fait péter les tarifs. Viens, on parie que je rappe mieux que toi. Viens, on parle encore de notre malaise pour qu'ils nous comprennent. Viens, on siffle encore et encore la Marseillaise. Viens, on fait de la thune. Viens, on arrête d'être en manque. Viens, on stoppe l'autotune. Viens, on chante vraiment. Viens, on fait la diff. Viens, on arrête de croire qu'avoir une grosse barbe, ça te garantit le paradis. Viens, on sort de l'écran. Viens, on sample idéalgique. On se rappelle à quel point DJ Mehdi était grand. Viens, on continue le combat. Viens, on s'entraîne. Viens, on parle des millions de morts qu'on ignore dans mon pays en guerre. Viens, on s'arrête de vivre à genoux. Viens, on rassemble nos forces. Viens, on fait des gosses bien meilleurs que nous. Yeah, venez, on réclame. Venez, on s'éclate. Venez, on s'exclame. Yeah, venez, on freestyle. Venez, on s'installe. Venez, on touche les étoiles. Le monde est devenu tellement fou, emporté par un mouvement fou. Yeah, venez, on réclame. Venez, on s'éclate. Venez, on s'exclame. Porté par la foule, le monde est devenu fou. Viens, viens, viens. Non, laisse seulement. C'est dingue, non? Ça peut être un geste. Donc on voit la prochaine fois.